CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ouais, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une bonne matinée. Je m'appelle Rachel Castan et dans le cadre de mon stage, je vais prendre le relais de Florence ce matin pour l'animation des Aurores Montréal sur CIBL. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit la photographe Andrea Calderon-Stephens pour nous parler de sa nouvelle exposition « Vivre à loisir, le bonheur à tout âge ». Puis Éducalcool qui a pour mission d'informer et de sensibiliser les Québécois sur des habitudes responsables de consommation d'alcool, a fait de grands changements dans sa gouvernance et prend ses distances avec l'industrie des boissons alcoolisées. Nous recevons Sylvain Dupuis, le président du conseil d'administration d'Éducalcool, pour nous parler de ces changements. Et pour finir, le conseil d'administration de l'Opéra de Montréal a nominé Jean-Pierre Primiani, actuellement chef de la philanthropie, au poste de directeur général de l'Opéra de Montréal. Nous allons revenir sur son parcours et les enjeux et défis que comporte cette nouvelle arrivée. Mais avant, pour la revue de presse du jour, je tends mon micro à notre collaboratrice Naomi Alton. Naomi, qu'avons-nous dans l'actualité ce matin ?
Bonjour Rachel, merci beaucoup. Alors une première bonne nouvelle, la petite Claire Bell, âgée de 3 ans, qui était portée disparue, a été retrouvée seule et déshydratée, mais saine et sauve hier en Ontario, près du lieu où sa mère l'aurait abandonnée dans un fossé. C'est un soulagement évidemment, la fillette est hors de danger, mais c'est une histoire qui soulève des questions de santé mentale, d'intervention, de suivi familial. Rappelons que la mère de la petite fille accusée n'a pas prononcé un mot durant son apparition devant la cour hier. Et c'est aussi une occasion de saluer le travail, les efforts et la coordination des services de police de l'Ontario et du Québec, de la Sûreté du Québec et de tous les intervenants d'urgence mobilisés dans l'alerte Amber qui ont permis de retrouver la petite Claire Bell saine et sauve. Un peu de politique maintenant, municipal, chef de projet Montréal et chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Luc Rabouin, entre officiellement en campagne. Ce mardi, il a lancé une série d'affiches colorées avec le slogan « Un nouveau regard sur Montréal » en vue des élections municipales en novembre 2025. Il promet entre autres un réseau express pour les autobus et une réduction de moitié des délais pour obtenir un permis de construction. Luc Rabouin veut ainsi se distinguer de sa prédécesseure, Valérie Plante, en misant directement sur l'efficacité de l'appareil municipal. Donc rappelons que Luc Rabouin affrontera la nouvelle chef d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, pour le poste de maire de la métropole et actuellement aucun autre candidat à la mairie n'est officiellement en lice. Le scrutin aura lieu, on vous le rappelle, le 2 novembre prochain. Un peu plus de légèreté pour les gourmands parmi nous, le retour d'une institution de la poutine à Montréal. Après plus de 40 ans d'absence, Ashton, donc anciennement chez Ashton, revient à Montréal avec une succursale prévue au Premium Outlet de Mirabel cet automne. Plus besoin de faire donc 2 heures de route pour aller déguster une de leurs délicieuses poutines. Et enfin, avec la grève des employés de la STM qui a duré jusqu'à lundi dernier, le service de vélo en libre-service Bixi a explosé ses records. Pendant la grève, jusqu'à 98 500 trajets par jour. Les stations ont été renforcées, les flottes redistribuées et 86% des nouveaux utilisateurs prévoient de rester des utilisateurs réguliers.
Merci beaucoup Naomi pour toutes ces belles informations. On passe maintenant en musique avec Caméra par Corridor et on revient très bientôt avec la photographe Andrea Calderon-Stephens.
Thank you.
lumière de contrôle devant la caméra.
C'était Caméra de Corridor. Ils seront d'ailleurs sur la scène Spotify des Franco demain à 21h30. Alors vous êtes bien dans l'émission des Aurores Montréal sur les ondes de CIBL. La nouvelle exposition Vivre à loisir, le bonheur à tout âge est visible à l'écomusée du Fiermonde jusqu'au 7 septembre. Elle présente une série de photographies prises dans 17 CHSLD du centre-sud de Montréal. Elle met en lumière les liens entre les résidents et le personnel, mais aussi l'importance de la joie malgré un contexte de soins de longue durée. La photographe Andrea Calderon Stephens est à l'origine de cette exposition. Elle a aussi travaillé comme monitrice en loisirs. Elle est avec nous aujourd'hui pour en parler. Alors pour mener cette entrevue, je tends mon micro à ma collaboratrice Florence Aquilina.
Bonjour, merci Rachel. Bonjour Andrea, merci d'être avec nous.
Bonjour Florence, merci de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Et d'ailleurs, j'étais présente au lancement de l'exposition hier. Tu as prononcé un discours qui m'a également beaucoup touchée. On va y revenir. Et cette expo-là, c'est un hommage, une déclaration d'amour un peu à, entre autres, ton milieu de travail, un geste artistique fort aussi. Donc, ce projet a été réalisé, comme Rachel le dit, dans 17 CHSLD du CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. C'est un travail d'ampleur. J'aimerais en apprendre un peu plus comment est née cette idée, comment tu as réussi aussi à conjuguer ton regard de photographe avec ton expérience personnelle au sein des équipes de loisirs.
En fait, moi, je suis arrivée à Montréal il y a 4 années. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était qu'un CHSLD du tout. Je faisais ma maîtrise en art visuel à l'UQAM et je me cherchais un travail que je pouvais faire à temps partiel. Donc, j'ai vu une annonce qui demandait quelqu'un pour travailler avec des personnes aînées et faire des activités. Et comme j'avais un lien très fort avec ma grand-mère et en plus, j'aime les activités artistiques, je me suis dit « c'est parfait ». Mais j'avais aucune idée où est-ce que j'allais arriver. Donc là, j'arrive et je commence à apprendre petit à petit qu'est-ce que c'est qu'un CHSLD, c'est qui les gens qui sont hébergés là. Et puis, je commence à avoir des liens avec des résidents et des résidentes. Je sens que ça me nourrit énormément et que ça me touche énormément et que ça me fait voir la vie et les relations d'une autre façon. Mais je ne savais pas que le programme des loisirs opérait dans 17 CHSLD différents. Et un jour, il y a Isabelle Tremblay qui était en charge d'aller voir comme, les 17 CHSLD pour voir que le programme des loisirs marchait bien et que les préposés aux bénéficiaires en loisirs qu'on venait d'intégrer à l'équipe étaient bien, bah, que tout ça se dérouler correctement. Et je la vois parler de comment ce programme opère dans 17 CHSLD. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un programme important et énorme. Et puis, bah, moi, je viens d'un autre pays, mais je me rendais compte que mes amis qui habitent ici n'étaient pas au courant du tout non plus. Donc, je me suis dit que c'était une histoire importante à partager. Et en plus, bah, justement parce que je commençais à avoir des liens très affectifs avec plusieurs résidents et résidentes, et je fais de la photographie. Un jour, j'ai amené ma caméra et j'ai commencé à prendre des photos avec les résidents. Genre, il y avait une résidente qui posait, qui amenait des choses, qui a même mis des oreilles de lapin. Tu sais, comme c'était pas, comme on s'amusait tellement. Elle m'a demandé comme les photos en impression. Je lui ai amené ça et puis elle a affiché tout dans sa chambre. Et là, je me suis dit, ok, je pense qu'il y a une idée qui s'en vient.
Oui, il y a quelque chose à faire.
Oui, exactement. Et c'est là que j'ai parlé du projet avec Isabelle et je lui ai dit, je veux photographier des activités dans les 17 centres.
Oui.
Et puis Isabelle a parlé avec André Méthode, qui est la directrice du programme des loisirs. Et puis, elles m'ont donné tout son support et c'est là que l'aventure a commencé.
Ça s'est fait très naturellement.
Oui.
C'est un projet de longue date. Ça fait quand même quelques temps là, maintenant que... Parce que, comme tu l'as mentionné, tu étais monitrice parallèlement à ta maîtrise en arts visuels à ce moment-là. Donc, c'est quand même un projet de longue durée.
Bien, ça a commencé en 2023. J'étais en train de finir ma maîtrise. Mm-hmm. Mon sujet n'avait rien à voir. Là, c'était documentaire, mais c'était à propos du mouvement féministe au Mexique. Et puis, mais là, je me disais, OK, c'est aussi comme un projet documentaire, c'est à propos de la joie, de la résistance aussi. Et puis, mais ça s'est fait vraiment vite. Comme j'ai commencé à prendre les photos en juin 2023 et j'ai fini de les prendre en août 2023. Et en septembre, on a imprimé. C'est là que la Fondation Santé Urbaine nous a donné le financement pour qu'on puisse imprimer en acrylique. Donc, la qualité change complètement. Et on a exposé à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, plus pour la communauté interne. Et l'écomusée représente vraiment l'opportunité d'ouvrir cette exposition.
C'est un pas de plus grand public.
Exact.
Tu parles beaucoup de la proximité, justement. T'as une proximité avec les résidents des CHSLD. Mm-hmm. Ça change forcément ta perspective aussi en tant que photographe. Donc, j'aimerais savoir en quoi ton rôle sur le terrain a influencé ta manière de photographier. Parce que tu n'étais pas seulement photographe, tu étais impliquée, tu avais des relations personnelles avec ces personnes-là.
Oui, ben justement, je pense que l'affectivité change tout. Comme quand j'ai témoigné toutes ces activités-là, il y avait des résidents que je connaissais, il y avait d'autres que je ne connaissais pas. Mais je me rendais compte que quand j'arrivais dans un nouveau CHSLD, j'avais déjà l'approche comme pour savoir comment aller parler aux résidents avant de les photographier. Et beaucoup de fois, je me retrouvais à jouer comme... Moi, c'était comme une mode de photographie un peu ludique, là. Comme je me souviens d'un résident qui était dans le salon de coiffure. Je sais pas, on était en train de lui raser la barbe. Et puis, il me regardait, il me faisait une face. Et puis, il rigolait, moi, je rigolais, je lui faisais une autre face. Tu sais, c'était comme... C'était souvent dans cette relation que je prenais les photos. Et je pense que dans le moment, je voyais pas vraiment qu'est-ce que je photographiais. J'étais plus dans l'émotion, je tirais plein de captures. Et puis, c'était dans l'édition que je regardais les photos, je voyais qu'est-ce qui marchait ou qu'est-ce qui ne marchait pas. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a comme une photo où on voit trois moments différents que je n'avais pas vus dans le moment, mais après, je me suis rendue compte de toute la scène qui s'est déroulée. Mmh. Donc, c'est une activité de tango. Et il y avait un résident qui dansait toujours avec la même résidente. Mais là, il y avait la danseuse professionnelle de tango qui s'est mise à danser avec le monsieur. Et on voit la résidente qui s'approche pour dire « Ah non, c'est moi qui danse avec lui ». Et on voit comment elle prend le résident et elle l'arrache de la danseuse et à la fin, on les deux, voit tous les deux danser ensemble. Donc oui, c'est un peu ça.
Je trouve que ça décrit bien en fait l'essence de l'expo. Le bonheur à tout âge, d'ailleurs, c'est un peu son slogan. Puis aussi le titre de l'exposition, Vivre à loisir, qui met l'accent, je trouve, sur le droit au plaisir, au jeu, à l'activité, et vraiment à tout âge. Est-ce que c'était un contrepoint volontaire aux représentations plus médicalisées et sombres des CHSLD? Parce que dans les médias, on a tendance à avoir vraiment plus cette impression-là de médical, plus sobre. Et là, on est vraiment dans le plaisir.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est justement... C'était aussi ma surprise, tu sais, comme quand je suis arrivée, au début, j'étais comme dans le choc que c'était un milieu de soins où il y avait des personnes qui étaient très malades aussi ou avec des limitations fonctionnelles très prononcées. Et puis quand j'ai vu le travail de toute l'équipe de loisirs et j'ai vécu ce lien-là avec les résidents, je me suis rendue compte que l'amour... L'affectivité, tu sais, comme le plaisir, la rencontre, comme a tellement aussi de poids et ça fait partie de la santé, de la vitalité, de la vie. Et comme je me suis dit, même dans des conditions comme ça, ou même quand on est rendu, il y avait beaucoup de résidents de 100 ans et plus, mais c'est vraiment le plaisir, le jeu, l'amour qui donne du sens à la vie, plus au-delà du fait de pouvoir respirer, tu sais.
Dans ton discours aussi, tu as évoqué un autre élément, je crois, important qu'on voit également un peu dans ton exposition, c'est que beaucoup de membres de ces équipes sont issus de l'immigration. On s'en est parlé aussi d'ailleurs hier au lancement, c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment cette dimension interculturelle là, s'est manifestée dans ton expérience?
Bien, tout d'abord, comme je l'ai dit aussi dans mon discours, moi je suis immigrante et quand j'étais là aussi dans la naïveté de ne pas savoir où je m'en allais, j'ai remarqué que pas juste dans le programme des loisirs, mais aussi comme les infirmiers et les infirmières ou les préposés aux bénéficiaires en général, la plupart comme étaient d'autres pays. Et puis, justement dans les médias, moi j'écoute souvent parler des discours péjoratifs sur les immigrants et immigrantes. Et là, mon expérience et ce que j'ai vécu, c'est que c'est des personnes qui s'engagent, qui travaillent avec une sensibilité et avec une générosité. Je pense que, justement, le bagage ou les pays d'où on vient et comme, justement, cette diversité culturelle apporte beaucoup et fait en sorte que les relations qu'on établit aussi soient pleines d'affectivité, de sensibilité et comme... Je voulais mettre ça en avant aussi.
On le voit, cette affectivité-là également dans les photos. Pour terminer très rapidement, parce qu'il nous reste moins d'une minute, Andrea, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un message à faire parvenir aux auditeurs, auditrices, pour les inviter à aller voir ton exposition là, qui se représente jusqu'au 7 septembre, si je ne m'abuse? Oui.
Bien, le message que je voudrais transmettre, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le monde en ce moment qui se passent. Et qui, moi, en tout cas, comme ça me brise le cœur complètement, tout ce qui est en train de se passer et qu'on voit dans les nouvelles. Mais qu'on a tous et toutes aussi le pouvoir de construire des communautés ancrées dans la joie, dans la rencontre, dans l'amour. Et que c'est justement un témoignage d'à quel point on peut apporter du bonheur aux autres et que le bonheur et la joie se construisent vraiment avec les autres. Donc, j'espère que cette exposition va inspirer aussi les gens, justement, à voir que dans leur entourage, on a le pouvoir d'agir à partir de l'amour.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Andrea Calderon Stephens, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Florence, pour cette entrevue. Nous retrouvons, après la pause musicale, Sylvain Dupuis, président du conseil d'administration à Éducalcool. Place à Quel calvaire de plume la traverse. Bingo.
Le matin, quand tu te réveilles, pis t'as pris un coup la veille, quel calvaire.
t'auras le goût d'une cigarette, mais t'as rien que des allumettes. Quel calvaire! Tu finis ton fond de bouteille, tu bois les mégots de la veille. Quel calvaire! En fermant le tape à cassette, tu mets le pied dans le plat de crevettes. Quel calvaire! Quel calvaire! 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 Mambrière me disait ça. Oublie jamais mon petit gars, on a chacun nos petites misères, mais faut pas s'en faire un calvaire. Un matin qui fait ben frette, t'as du trouble avec ta chaufferette. Quel calvaire! Tu vas chercher ta poubelle, et tout est foiré dans ruelle. Quel calvaire! Tu rencontres une belle brunette, tu te rends compte que c'est une tapette. Quel calvaire! Un beau jour, ton boss t'appelle, pis tu retombes en bas de l'échelle. Quel calvaire! Quel calvaire! 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 Mambrière me disait ça. Oublie jamais mon petit gars, on a chacun nos petites misères, mais faut pas s'en faire un calvaire. Quel calvaire! 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 Mambrière me disait ça. Oublie jamais mon petit gars, on a chacun nos petites misères, mais faut pas s'en faire un calvaire.
Hey, le voisin, es-tu en train de planter un arbre en dessous des fils électriques?
Ouais, pis?
Ben, quand il va pousser, il pourrait se prendre dans les fils, puis faire planter le courant, faire planter la lumière, faire planter l'Internet.
Ah ouais?
Faire planter l'électricité pour tout le voisinage.
Et je pense que je suis en train de me planter, là.
Un grand nombre de pannes d'électricité sont causées par des arbres.
Oh, pélaille, on veut pas ça.
Plantons le bon arbre au bon endroit. Ensemble, évitons les pannes. Pour en savoir plus, visitez hydroquebec.com/arbre. Hydro-Québec, c'est à nous.
On se retrouve sur Voix Off, présentée par les productions Médusa, une émission où l'art et la culture rencontrent les diversités dans toute leur richesse et leur vérité.
Animée par Duprin Latour et Eliwell en direct chaque jeudi de 17h à 18h et en rediffusion le lundi de 14h à 15h sur CIBL 101.5 FM.
Chaque semaine, un invité spécial partage son parcours, son art, ses engagements dans un entretien exclusif.
Puis place aux voix fortes du milieu culturel, aux acteurs du changement et à notre segment Sous le projecteur, où on met en lumière une personne ou une initiative à découvrir absolument.
Plongez dans l'univers du rap québécois chaque lundi de 17h à 19h sur CIBL 101,5 FM avec On s'en rap. Découvrez les talents francophones qui façonnent la scène musicale actuelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. On s'en rap, c'est votre émission.
Samedi soir, branchez-vous sur la bonne fréquence. de 17h à 20h, retrouvez-nous sur CIBL 101,5 ou en ligne sur CIBL 101,5.ca et sur Balade au Québec pour une émission avec des invités exceptionnels, des DJ sets enflammés et des artistes invités. Ne manquez pas ça. La bonne fréquence sur CIBL 101,5.
CIBL. Vous êtes dans l'émission des Aurores Montréal et du Calcol qui a pour mission d'informer et de sensibiliser les Québécois sur des habitudes responsables de consommation d'alcool, fait de grands changements dans sa gouvernance et prend ses distances avec l'industrie des boissons alcoolisées. Nous recevons aujourd'hui son président du conseil d'administration, Sylvain Dupuis, pour nous parler de ce nouveau chapitre et de ses répercussions sur les consommateurs d'alcool au Québec. Pour mener cette entrevue, je tends mon micro à ma collaboratrice Pénélope Vidal. Pénélope.
Merci Rachel. Bonjour Sylvain Dupuis. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer cette entrevue, pour ceux qui ne connaissent pas votre organisme et du Calcol, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est?
Alors, merci de me recevoir, premièrement. Merci aussi de me donner l'opportunité de parler d'Éducalcool. En fait, le nom le dit presque correctement. On éduque sur la consommation responsable d'alcool. Faire des choix éclairés. Donc, prendre plus conscience de l'impact de la consommation sur nous personnellement. Et donc, avec des programmes qu'on met en place, des outils, on permet aux gens de mieux saisir l'impact que la consommation peut avoir sur chacune de ces personnes-là.
Alors, vous y réfléchissez depuis longtemps à ce changement, notamment avec la directrice générale Geneviève Desautels, qui quittera ses fonctions le 4 juillet. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette volonté de changement?
Alors, juste revenir sur la question du changement. Éducalcool existe depuis, on a célébré notre 37e anniversaire la semaine dernière. Donc, ça fait très longtemps que le volet Éducalcool existe. Ce qu'on a changé, ce qu'on a proposé il y a 2 ans, c'est un virage plus au niveau de la gouvernance parce que à l'époque, Éducalcool avait été bâti ou créé par l'industrie des boissons alcoolisées. D'accord. Dans un besoin de répondre à une attente d'un organisme qui légiférait sur la consommation puis la prévention. Donc, Éducalcool a été créé vraiment par l'industrie des boissons alcoolisées. Au fil du temps, comme dans toute société, l'évolution fait en sorte qu'on se devait d'être plus contemporain et plus indépendant, si vous voulez, en termes de messages. Et donc, il y a 2 ans, on a entrepris une modification. Là, je vais essayer de ne pas être juridique ou technique, mais nos règlements généraux, ceux qui calibrent en fait la législation de l'organisation. Avant, c'était des membres de l'industrie qui votaient, de l'industrie des boissons alcoolisées. Il y avait 5 membres au conseil qui étaient désignés par l'industrie des boissons alcoolisées. Et tout ça, dans un contexte contemporain, donnait l'impression qu'on était, nous, en termes d'éducation, en conflit d'intérêts. Oui. Ce qui, pour vraiment clarifier, n'était pas le cas. En fait, tout est apparence. Oui. Si, il y a 2 ans, quand je suis arrivé à la présidence, si on m'avait dit qu'il y avait des conflits d'intérêts, je n'aurais pas accepté le mandat. Mais tous les gens autour de la table savaient qu'il fallait qu'on fasse des changements. Et ce virage-là fait en sorte qu'aujourd'hui, l'organisme est totalement indépendant. Il y a seulement des membres indépendants qui siègent. Les membres qui vont se joindre à l'organisation, ce sont des membres totalement indépendants. Ça peut être des membres de l'industrie, ça peut être comme vous. D'ailleurs, à chaque fois que je me présente, je demande « Est-ce que vous avez votre carte de membre pour Éducalcool? » La réponse est non, parce que vous ne connaissez pas encore assez bien. Mais l'idée, c'est d'ouvrir à l'ensemble de la population pour pouvoir mieux comprendre et participer à l'évolution des programmes.
Donc, en effet, vous avez renouvelé le conseil d'administration, changé la direction générale.
Juste une petite nuance, on n'a pas changé de la direction générale. En fait, Geneviève quitte parce que dans le virage qu'on va effectuer, le volet gouvernance est un élément sous-jacent à l'ensemble du programme, mais on fait aussi un virage au niveau de la façon dont on va adresser nos programmes. Et comme cette stratégie-là est différente de celle qu'on avait jusqu'à récemment, ouais. Geneviève, lorsqu'elle a été embauchée il y a 2 ans ou 3 ans, a été le porte-parole pour Éducalcool. Les messages qu'on va véhiculer vont être sur une forme différente. Et Geneviève dit, c'est moins ma tasse de thé, si je peux me permettre l'expression. Donc, ce n'est pas vraiment la façon dont... Ce n'est pas moi qui va amener ces programmes-là de la même façon. Donc, elle a annoncé son départ.
Donc, mais c'est vraiment. Place.
Oui, mais elle a vraiment 2 choses différentes. On est en très, très bon terme, puis vous pourriez lui poser la question, puis voilà.
D'accord. Donc, en fait, tous ces changements au niveau de la stratégie de l'organisme, En quoi consiste exactement cette transition stratégique? Quelle est votre vision pour l'avenir? Qu'est-ce que vous recherchez?
En fait, la phrase que je vais utiliser, c'est qu'avant, on parlait à, maintenant, on parle avec. C'est vraiment une nuance importante.
Avec les consommateurs.
Avec les consommateurs, les parties prenantes. Avant, on adressait des messages aux gens. Par exemple, on avait des publicités à la radio ou dans les journaux ou à la télé sur la réflexion sur la consommation. Mais c'est des messages qui étaient très, très forts. Donc, la notoriété, entre autres, d'Éducalcool est très forte. 96 % des gens connaissent au Québec Éducalcool, la marque. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ces messages-là étaient connus, mais pas intégrés personnellement par les gens. Et quand je dis personnellement, c'est-à-dire que moi, on peut m'envoyer un message sur la consommation, c'est important, assure-toi de bien comprendre les règles et tout, mais je peux ne pas me sentir interpellé personnellement par le message. Donc, le virage qu'on fait, c'est d'être vraiment plus contemporain avec nos messages en disant, aujourd'hui, on va parler aux gens qui, eux, ont contact avec les personnes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est une des cibles qu'on privilégie, c'est les jeunes au postsecondaire.
Oui, parce que pour rappeler, vous avez identifié trois publics cibles bien claires. Ouais. Voilà. Donc, un de ces groupes est les jeunes du postsecondaire entre 17 et 24-25 ans.
Oui, et merci, parce que c'est effectivement, on a décidé de mettre l'emphase dans la première année sur trois groupes cibles, les jeunes postsecondaires, les bars, tenanciers, restaurants et tous les milieux corporatifs, parce que ce sont des groupes avec lesquels on a déjà une certaine proximité et aussi, on sait qu'il y a des besoins. Donc, je reviens à l'exemple qu'on fait allusion, les jeunes postsecondaires. Globalement, on entend que la consommation réduit, c'est vrai. Les gens de la SEQ eux-mêmes l'avouent. Mais dans certaines circonstances, il y a de la surconsommation. Le meilleur exemple, c'est un jeune qui arrive ici pour étudier à l'université, participe à un parti d'intégration. Il y a un contexte social, une pression qui crée un environnement de surconsommation qui n'est pas agréable pour les gens. Et donc, pour pouvoir parler à ces gens-là, les messages qu'on envoyait ne passent pas. En fait, ils passaient, mais pas personnellement.
Les gens ne se sentaient pas concernés?
Non, pas du tout. Ben, en fait, la plupart des gens ne se sentent pas vraiment concernés. Ils se sentent concernés, mais pas dans le sens où, ah oui, je vais réfléchir et ça va vraiment avoir un impact. Donc, dans cet exemple-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se rapprocher des services aux étudiants, des associations, et on va travailler avec ces gens-là qui, eux-mêmes, vont avoir un impact auprès des jeunes.
Qui sont au contact des groupes cibles et qui vont pouvoir les sensibiliser.
Et qui vont utiliser le bon langage aussi. Si moi, je parle à un jeune, il va m'écouter. Force est d'admettre que le message va mieux passer si ça vient de quelqu'un d'environnement.
Oui. Donc, vous avez décidé de prendre du recul par rapport à l'industrie des boissons alcoolisées. Ça, c'est le message dont vous nous avez fait part tout à l'heure. C'est vrai que vous avez eu beaucoup de critiques concernant ce conflit d'intérêts. Mais est-ce que vous pensez qu'en changeant les membres de la gouvernance, ça, vous allez pouvoir vous éloigner de cette critique?
En fait, le mot « éloigner », c'est le terme qui est utilisé dans l'article auquel vous faites allusion.
Oui, de la presse.
De la presse. Oui. Quand on dit « éloigner », on peut être collé et s'éloigner d'un pouce, puis on s'éloigne.
Oui.
Alors, quand on dit « s'éloigner », c'est plus d'avoir une position centriste où toutes les parties prenantes vont être concernées. Donc, c'est clair qu'on va continuer à parler à l'industrie des boissons alcoolisées. D'ailleurs, que ce soit les bars, restaurants, tenanciers, ça demeure que c'est dans un domaine très… Donc, on va travailler différemment. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est détaché en termes d'apparence de conflit, parce que les gens disaient « Ah oui, mais vous comprenez, on sait que vous êtes l'industrie des boissons alcoolisées et derrière ça, vous avez désigné des gens. » Donc, cette gouvernance-là était nécessaire pour démontrer notre indépendance par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Pas plus les industries, l'industrie des boissons alcoolisées que d'autres.
Que d'autres. Vous avez également décidé d'abandonner les grandes campagnes de publicité de masse. Pourquoi ce choix?
Parce que, au fond, le message, on va sûrement revenir à ça, ou en tout cas, on va faire un combo, mais les campagnes de masse faisaient exactement ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on touche à plein de gens, mais sans les toucher personnellement. Donc, on va recibler sur des groupes pour avoir des impacts réels.
Au niveau de la publicité.
Au niveau de la publicité, des formations et autres.
D'accord. Quel est votre lien avec les organismes publics comme l'INSPQ ou d'autres organismes plus indépendants comme la SPQ? Est-ce que vous travaillez avec eux?
En fait, on devrait. En fait, c'est un des... Je n'étais pas là à l'époque, mais c'est sûr que par nos positions précédentes, peut-être qu'on avait tendance à être moins près de ces organismes-là. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, on se rapproche de ces gens-là parce qu'eux, ils ont la connaissance, ils ont la proximité des instances qui prennent des décisions. Alors, nous, on veut être des porte-parole pour ces gens-là, pour tout l'ensemble des parties prenantes, mais on veut se rapprocher de ces gens-là, recréer un pont.
Et ils ont peut-être également, enfin, je pense à l'INSPQ, ils ont peut-être également des données chiffrées sur lesquelles vous pouvez vous baser pour peut-être identifier votre public cible même.
Tout à fait. Donc, on veut, c'est un travail qu'on veut enclencher. Et c'est un peu la raison pour laquelle je viens de dire, bien, ce travail-là, c'est plus de terrain. Moi, je suis plus intéressé à faire autre chose. Voilà.
Alors, pour revenir sur le terrain, au plan plus opérationnel de vos missions, un des principes d'Éducalcool, c'est faire un choix éclairé sur sa consommation. Mais comment ça se concrétise sur le terrain?
En fait, je reprends l'exemple des jeunes au postsecondaire.
Oui.
Donc, on s'entend que dans un environnement X, la pression, l'environnement dans lequel les jeunes vont évoluer, il va y avoir des bar open, si je peux me permettre l'expression, il va y avoir de l'accès à de l'alcool et tout. Alors, ce qu'on veut faire concrètement, c'est il y a des jeunes, il y a un groupe, entre autres, qui existe dans une université où ces gens-là participent aux parties et parlent à ces jeunes-là
ah oui.
en leur disant « tu as d'autres options ». Que ce soit des cocktails sans alcool, que ce soit de l'eau, que ce soit d'autres choses, tu n'es pas obligé de céder à la pression si tu es conscient que l'impact que ça peut avoir sur toi.
Donc, c'est un peu comme des médiateurs ou des ambassadeurs.
Des ambassadeurs, oui.
Qui circulent dans les soirées et qui font de la prévention, qui donnent des bons conseils.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on note, c'est que les gens ont un besoin d'avoir un verre dans les mains. C'est, socialement, oui. c'est l'impact. Alors, mais ce verre-là, qu'est-ce qu'il contient? Bien, il y a des gens... Avant, on n'avait pas vraiment la consommation en tête, sans alcool. Là, aujourd'hui, on le fait. Mais c'est un choix qu'il faut faire.
Oui. Pour finir rapidement, à l'approche de la 31e édition du Mondial de la bière qui s'ouvre demain à Montréal... quel message souhaitez-vous faire passer aux visiteurs et aux consommateurs d'alcool qui viennent exclusivement pour découvrir des bières?
En fait, je pense que l'idée de faire des choix éclairés, c'est juste d'être conscient de l'impact que ça peut avoir sur vous. Quelle est la raison pour laquelle je veux consommer? C'est par le plaisir, pour le social, pour plein de raisons. Donc, d'en être bien éclairé et connaître aussi les effets sur nous et sur les gens qui nous entourent sur cette consommation-là. Mais l'idée, ce n'est pas de tomber dans l'abstinence ou autre, là.
Parfait.
Voilà.
Ben, je vous remercie, Monsieur Sylvain Dupuis, et puis je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Pénélope, pour cette entrevue. On passe maintenant en musique avec Don Giovanni de Mozart, et on revient très vite avec Jean-Pierre Primiani, le nouveau directeur de l'Opéra de Montréal.
Non
Vous êtes dans l'émission Des Aurores Montréal sur les ondes de CIBL, c'était Don Giovanni de Mozart. Le conseil d'administration de l'Opéra de Montréal a nominé Jean-Pierre Primiani, actuellement chef de la philanthropie, au poste de directeur général de l'Opéra de Montréal. Il prendra poste à compter du 1er novembre 2025. Nous allons parler avec lui de son parcours et des enjeux et défis que comporte cette nouvelle arrivée. Alors bonjour Jean-Pierre Primiani, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de parler à vos auditeurs.
Tout d'abord, félicitations pour ce nouveau poste.
Merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce que cette prise de poste représente pour vous à titre personnel et professionnel ?
Ah, c'est une bonne question. Écoutez, j'ai répondu en faisant référence à mon âge et à l'âge de l'Opéra de Montréal. Nous avons tous les deux 45 ans cette année. Alors, il y a une maturité au niveau de mon cheminement professionnel, disons, bien aligné avec la croissance de la compagnie. Et voilà, c'est un peu l'aboutissement d'une carrière au service de la culture, au service des arts. Ce côté de... Le dévouement à l'opéra est très profond pour moi. Ça fait partie de mon identité, de mon parcours personnel. Donc, j'ai envie de dire un parfait alignement.
Oui, parce que vous n'êtes pas nouveau à l'Opéra de Montréal. Vous avez un parcours riche dans le monde de la culture. Quelles expériences passées vous semblent les plus déterminantes pour aborder ce nouveau rôle à l'opéra ?
Oui, je traîne dans les couloirs de la Place des Arts depuis longtemps. Je suis passé de la scène à l'arrière-scène, disons, quand j'ai décidé de faire une maîtrise en gestion des arts après des velléités de carrière lyrique que j'ai mises de côté, fort heureusement. À ce moment-là, je suis allé vous rencontrer le directeur général de l'époque parce que je commençais ma maîtrise en gestion HEC et il m'a offert un poste sur le champ. Donc j'ai commencé mes études et j'ai commencé à l'emploi de l'Opéra de Montréal, on parle de 2011. Ça a été une très très belle école de pouvoir justement faire des études de cas, mettre en pratique la théorie par rapport à la gestion des arts dans le contexte très spécifique de l'opéra, qui est une bibite quand même bien particulière par rapport aux autres arts vivants. C'est un art total, c'est un art très complexe. Il y a des réalités, on va dire, de production très particulières. Et ensuite, un petit détour à l'Orchestre symphonique où j'ai eu l'occasion vraiment de déployer pleinement, on va dire, une expertise en philanthropie qui m'a très bien servi depuis les 8 dernières années lorsque Patrick Corrigan, le directeur général qui prend sa retraite le 31 octobre, m'a embauché. Et ensemble, on a bâti donc une communauté philanthropique de soutien autour d'une vision stratégique ambitieuse pour la compagnie et the rest is history, comme on dit.
Alors, on voit bien que toutes ces expériences vous ont enrichi. Vous parlez de vision. Quelle est votre vision pour les prochaines années pour l'Opéra de Montréal ?
Alors, l'Opéra est un point très intéressant dans sa croissance. La croissance des 9 dernières années, des 9 dernières saisons sous la direction de Patrick Corrigan a été soutenue tant au niveau artistique qu'au niveau communautaire, qu'au niveau institutionnel. La compagnie a vécu une croissance financière parallèle, donc le budget est passé de 8 à 13 millions. une assise communautaire, des partenariats qui se sont multipliés, la formation des artistes à l'atelier lyrique, toutes les actions sociales, d'éducation, cet engagement communautaire. Donc, je suis dans cette trajectoire déjà bien établie. Je poursuis ce travail. La vision, le plan stratégique est là. Je vais y apporter évidemment une touche personnelle et encore de l'ambition, parce que la prochaine phase de croissance, on va dire, sera sans limite, si on veut, par rapport à tout le potentiel artistique et communautaire pour une forme si riche comme l'opéra dans un milieu très particulier qu'est Montréal et un marché international, parce que l'opéra, c'est en effet un marché international. Donc, on peut s'attendre à un essor plus marqué, un rayonnement plus appuyé de nos artistes, de nos créateurs montréalais, québécois. La qualité artistique, la marque artistique est très, très forte. Le rayonnement, par contre, le déploiement, la visibilité, la reconnaissance de cette force créative doit suivre.
Alors, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes auxquelles j'ai envie de rebondir. Mais
tout
déjà, par rapport à votre touche personnelle, comment est-ce que vous la décririez? Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, Jean-Pierre Primiani, à l'Opéra de Montréal?
Mes collègues me côtoient depuis longtemps. Ils savent quel genre de leader je suis. Ce sera une touche, on va dire, dans la bienveillance, la collaboration et l'ambition. Il y a énormément d'ambition dans mon parcours personnel. J'ai cette ambition pour la compagnie. Ce qu'on a réalisé au niveau philanthropique, c'est une croissance impressionnante dans les 8 dernières années. Et donc, l'équipe sait qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais qu'on va le faire ensemble et qu'on va le faire dans le respect, la bienveillance et le plaisir de ce qu'on fait. Tous les gens qui travaillent à l'opéra sont des passionnés, sont des gens qui sont au service de la mission. Un opéra, ça représente des centaines de personnes qui mettent l'épaule à la roue, pour faire quelque chose d'absolument fou. Qui n'a aucun sens financier, aucun sens humain, mais qui nous fait vibrer et qui nous transforme et qui nous transporte. Et voilà, il faut y croire. Et c'est quand la magie opère, c'est absolument fabuleux.
Et est-ce qu'il y a des axes prioritaires sur lesquels vous souhaitez vous attarder dès votre arrivée à votre poste?
Je dirais qu'il y a deux priorités. La première, au niveau de la transition de la direction artistique à venir, qui va nécessiter un recrutement à l'international et quand même une direction nouvelle, un nouveau chapitre au niveau d'une direction artistique, toujours en continuité avec ce qui a été établi, avec une marque bien assise sur des fondations partagées. Nous sommes là pour mettre en valeur le répertoire lyrique, mais faire une place importante à la création, aux créateurs d'ici, amener les forces vives créatrices du Québec à l'opéra. Ça ne va pas changer. Et je ne vais pas définir tout ça tout seul. Il y a un plan stratégique à venir qui va se faire en collaboration avec le conseil d'administration, toute l'équipe, toutes les parties prenantes de la compagnie, qui sera entamée dès mon entrée en poste. C'est une belle occasion justement pour un directeur général de pouvoir mener un projet rassembleur qui va définir notre vision à long terme.
Oui, parce que l'Opéra de Montréal, c'est quand même un acteur très important localement, mais comme vous le disiez aussi pour le rayonnement international. Comment est-ce que vous allez gérer cette double mission pour garder le local et en même temps améliorer l'international et le rayonnement de l'Opéra?
J'épouserai la stratégie du glocal, donc agir localement, mais avec une attention, une vision globale, poursuivre les collaborations locales qui sont notre ADN. L'opéra, c'est la collaboration à la base. C'est un orchestre, c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la poésie, c'est tout ça. Donc, par notre constitution même, nous sommes portés à collaborer. Nous collaborons avec 5-6 orchestres différents. On a fait des coproductions à l'échelle nationale avec pratiquement toutes les compagnies canadiennes, à l'international déjà avec des compagnies en France, en Espagne. Mais il y a une intention plus marquée de démarcher et d'aller vers ce réseau international pour justement mettre de l'avant notre produit artistique. Et des occasions d'affaires, tout simplement, parce que le milieu de l'opéra est en mutation. C'est extrêmement coûteux, extrêmement complexe de faire de l'opéra aujourd'hui, encore plus qu'il y a 5 ans. Les coproductions sont une piste de solution. Donc, par exemple, je serai à la conférence européenne du mois d'octobre pour aller rencontrer des coproducteurs potentiels, des diffuseurs potentiels, et faire rayonner donc les produits, la marque artistique bien montréalaise, la signature montréalaise de comment on fait de l'opéra ici.
Et comment les partenariats, l'Opéra de Montréal a forcément beaucoup de partenariats. Comment est-ce qu'il contribue à ce rayonnement international et à le rôle d'acteur local?
Ben en fait, on bénéficie tous de cette mise en commun de nos actifs. Donc, que ce soit avec un orchestre symphonique de Montréal, un orchestre métropolitain qui est dans la fosse, ou des violons du roi, ou Imusici, ou l'orchestre classique de Montréal, à chaque fois qu'on a des partenaires comme ça, on élargit notre empreinte. Et c'est vrai avec tous les projets communautaires qui font rayonner l'opéra et qui redéfinissent l'opéra comme en fait une occasion de vivre quelque chose ensemble. Les projets d'action sociale sont un bon exemple. Ce n'est pas pour faire découvrir l'opéra, ce n'est pas du développement de public qu'on fait. C'est d'utiliser la puissance de l'opéra, sa multidisciplinarité et son potentiel très particulier, parce que pour faire de l'opéra, il faut se mettre ensemble. On ne fait pas du chant tout seul dans son coin. On participe à quelque chose de bien plus grand que nous. Et donc, quand on multiplie ça et qu'on le fait à une échelle nationale, internationale, avec d'autres compagnies d'opéra, d'autres producteurs à l'international, voilà, c'est une mise en commun de ces réseaux et on est tous gagnants.
Et quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels l'Opéra de Montréal est confronté aujourd'hui et comment est-ce que vous comptez les relever ?
On sait que le nerf de la guerre, c'est le financement. Mm-hmm. Donc, le conseil d'administration a choisi un professionnel de la philanthropie et la description de tâche était bien claire à ce niveau-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Une compagnie d'envergure comme la nôtre se doit d'avoir une direction qui est en mesure de donner les moyens de ses ambitions à une compagnie comme la nôtre. Ensuite, comme j'ai dit, il y a la complexité de notre art, qui requiert une certaine souplesse, mais une rigueur aussi dans la gestion des budgets, la gestion des programmations qui se font bien des années d'avance. Donc il y a une particularité à ce niveau-là qui fait en sorte qu'il faut être quand même assez polyvalent comme directeur général. Et comme n'importe quel autre domaine, à n'importe quelle autre époque, être conscient de son marché, être conscient de son positionnement, être conscient de son avantage concurrentiel et tout le reste. Et puis, c'était difficile il y a 10 ans, c'était difficile il y a 20 ans. On dit que les temps ont changé, c'est sûr. Et oui, post-pandémie, il y a des réalités qui changent peut-être, qui évoluent à un rythme accéléré. Mais ça a toujours été difficile, complexe, coûteux de faire de l'opéra, même en 1607.
Donc, vous savez dans quoi vous vous engagez.
J'espère bien.
Alors, c'est vrai que l'opéra, c'est parfois perçu comme un milieu un peu élitiste. Comment est-ce que vous comptez le rendre plus proche des Montréalais et Montréalaises, et peut-être aussi aux origines, enfin, aux différentes origines, aux différentes générations?
Écoutez, notre segment qui est le plus en croissance, c'est les 18-34 ans, et c'est très encourageant. Oui. Et si vous regardez les affiches de l'Opéra de Montréal, vous comprendrez que la marque, le message qu'on veut véhiculer, c'est que l'opéra, c'est tout sauf élitiste, poussiéreux, inaccessible. Ensuite, le défi le plus important, c'est d'amener quelqu'un à l'opéra la première fois. Mm-hmm. Lui faire comprendre qu'il n'y a pas de barrière sociale, d'éducation, linguistique, financière. Et on peut acheter des billets pour bien moins cher que n'importe quelle autre activité sociale ou culturelle. On peut tout simplement y aller et découvrir qu'on adore l'opéra. Mais on ne peut pas s'attendre que le public vienne à nous, il faut aller vers le public. Donc il faut multiplier ces démarches d'inclusion, d'accessibilité, aller vers notre public, aller vers nos communautés, trouver les ambassadeurs qui vont permettre à l'opéra de rayonner et aussi varier la proposition artistique. Si tout ce qu'on fait, ce sont des grands spectacles à la salle Wilfrid Pelletier, on demeure un peu ancré dans ce bastion de la culture qui est la Place des Arts, qui est fabuleux, mais qui peut être perçu comme inaccessible ou moins accueillant. Donc, si on regarde certaines des œuvres qu'on a fait en parallèle à la programmation principale, on est dans des plus petits théâtres, on est dans d'autres communautés, d'autres quartiers de Montréal. Et voilà, ça passe par toutes ces démarches. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Et quels projets ou ambitions vous tiennent à cœur pour ce prochain mandat ? Enfin, ce mandat qui arrive d'ailleurs.
Il y a derrière tout ça une notion de communauté, de community building, pardonnez-moi l'anglicisme. La philanthropie, c'est ça. C'est le fait de bâtir des relations avec nos parties prenantes, avec les personnes qui sont autour de nous, avec les personnes qui sont les plus près de nous, en fait. et qui ont à cœur le développement de la compagnie. On ne le fait pas tout seul, on ne le fait pas dans le vide. On le fait en communauté avec le soutien des gens autour de nous. Et donc, mon souhait, c'est de continuer à bâtir cette communauté et idéalement de trouver un centre, une maison où toutes ces personnes puissent justement se retrouver, vibrer et partager leur passion de l'opéra et pleinement déployer tout le potentiel de la compagnie, tout simplement.
Et pour finir, alors il nous reste moins d'une minute, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus à l'idée de commencer ce nouveau chapitre ?
C'est une excellente question. La possibilité de... En fait, de pleinement nous donner les moyens de débrider d'une certaine façon tout le potentiel. Je ne suis pas là pour imposer, je ne suis pas là pour imprimer une certaine direction. Je suis là pour permettre à mes collègues, aux artistes, à tous les créateurs autour de nous d'aller de l'avant, de faire leur travail au mieux, de les soutenir dans leur démarche. Et donc, c'est cette vision que j'ai de la personne qui est là et qui laisse aller, laisse couler les flots.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Prignani, d'avoir été avec nous. C'était Jean-Pierre Prignani, le nouveau directeur général de l'Opéra de Montréal. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Je remercie tous nos invités d'avoir été avec nous et je remercie également Charles Pinel à la régie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis, 10h sur CIBL-FM.
Cette émission est une reprise. C'est un rendez-vous tous les mercredis à 15h30. Ici Maurice Bolduc et je vous présente des reprises musicales de tout genre. C'est un espèce de clin d'œil aux pièces originales les mercredis 15h30 et en rediffusion le vendredi midi.
Salut, je suis Jodana La Rochelle.
Moi, c'est Jessica Maharaj.
Et je suis Tamar Edmond.
Bienvenue à La Tablée des femmes, l'émission qui met la femme noire au centre du dialogue.
Chaque semaine, nous mettons en lumière vos réalités, vos luttes et vos réussites avec authenticité et passion.
Des témoignages touchants, des entrevues puissantes et des discussions qui font bouger les mentalités.
La Tablée des femmes, c'est tous les samedis en direct de 10h à 11h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Parce que
chaque femme noire doit être entendue.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Prendre la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue, votre clin d'œil sur l'actualité locale au pays. Aujourd'hui,